Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, nous sommes avec Emmanuel Faux, donc, et Dimitri Pavlenko, pour ceux qui ne l'ont pas entendu prêter l'oreille. Emmanuel Macron est de retour d'Irak et du Liban, mais à Beyrouth. Donc, le président français a piqué une grosse colère contre l'un de nos confrères qui, vous savez, a été otage au Proche-Orient. C'était mardi soir. C'est un grand spécialiste de cette région. Il s'appelle Georges Malbruno. Il a beaucoup écrit, donc, sur la scène proche-orientale. La scène a été filmée par une caméra de LCI et le chef de l'État s'adresse à l'envoyé spécial du Figaro, donc, en ces termes. Et Emmanuel, après avoir écouté, va vous expliquer ce qui s'est passé.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
Voilà, évidemment, c'est le son de la colère du président de la République face à un Georges Malbruno qui a été totalement stupéfait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, mon cher Emmanuel ?
Ce qui s'est passé, Guillaume, c'est que quelques heures avant d'atterrir à Beyrouth, Emmanuel Macron découvre dans les colonnes du Figaro un article de Georges Malbruno qui est titré « Le pas de deux d'Emmanuel Macron avec le Hezbollah ». Et dans cet article, notre confrère révèle notamment que lors de sa première visite à Beyrouth le 6 août dernier, vous savez, il s'était rendu sur place deux jours après la double explosion du port de Beyrouth, eh bien, Emmanuel Macron avait rencontré tous les leaders politiques libanais, dont un représentant du Hezbollah, le chef du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raad, un aparté qui a duré 8 minutes, dit Malbruno. Évidemment, c'est un événement parce que jamais un président français n'a rencontré un représentant du Hezbollah, qui, vous le savez, fait partie de la liste des organisations terroristes pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne et pour l'Allemagne, mais pas pour la France. Donc événement, mais évidemment rencontre diplomatiquement très sensible pour le chef de l'État. Alors, selon une source diplomatique française, le président Macron dit à Mohamed Raad, donc représentant du Hezbollah, il lui tient les propos suivants. Tout le monde sait que vous avez un agenda iranien. Prouvez que vous êtes aussi libanais, rentrez à la maison, quittez la Syrie, quittez le Yémen et faites le boulot ici pour construire un État, parce que ce nouvel État va aussi bénéficier à votre famille. Donc vous voyez, c'est quand même un langage de vérité, un langage très direct, qui est une façon de dire au Hezbollah, changez de peau, quoi, en gros. Cessez d'être le parti chiite pro-iranien du paysage politique libanais et venez mettre les mains dans le cambouis pour sortir ce pays, le Liban, votre pays, de la crise. On peut dire que c'est un langage très réaliste, très courageux aussi, du président de la République française, qui prend vraiment un risque en engageant ce dialogue direct sans précédent avec le parti chiite. Mais il sait aussi, Emmanuel Macron, qu'il n'a pas le choix et que le Liban n'a pas le choix. Parce que, je l'ai déjà expliqué ici, je vous l'ai redit il y a deux jours, le Hezbollah est un parti incontournable dans le paysage politique libanais. Il n'est plus seulement la force iranienne armée par l'Iran et qui a un arsenal militaire important au Liban. Il est aussi un parti politique qui siège au Parlement, qui a des ministres au gouvernement, qui a effectivement droit de veto sur la nomination de tel ou tel Premier ministre, et le dernier, ça a été le cas aussi. Et donc, son poids politique militaire, aujourd'hui, c'est important. Mais le problème, c'est que maintenant, le Hezbollah, pour que les choses soient débloquées, doit changer son logiciel. Il doit cesser d'être le parti satellite de Téhéran, qui fait la pluie et le beau temps à Beyrouth.
Ça ne va pas
être facile. Et d'ailleurs, selon les mêmes sources, et on comprend qu'Emmanuel Macron n'est pas beaucoup apprécié que ses propos soient rendus publics dans le Figaro, eh bien, il aurait dit aux représentants du Hezbollah, si vous jouez le jeu, on ne vous n'ennuiera pas sur la question de vos armes. Vous voyez, c'est un engagement quand même très fort de la part du président français.
Alors, il semble que d'autres indiscrétions aient déplu au président dans un contexte qui est quand même très difficile pour la presse, car s'en prendre un journaliste publiquement comme ça, c'est toujours quand même peut-être un signe, non pas de faiblesse, mais en tout cas d'une colère difficilement compréhensible.
Oui, absolument. Alors, toujours le Figaro, toujours le même Georges Malbruno, que vous le disiez, très très informé sur le Moyen-Orient, particulièrement sur le Liban. Georges Malbruno, on le rappelle, ancien otage en Irak pendant plusieurs mois, il y a une vingtaine d'années. Georges Malbruno suggère dans ce même article que Emmanuel Macron a menacé les leaders politiques qu'il a rencontrés le 6 août dernier de sanctions financières s'ils refusaient les réformes voulues par la France, par l'Europe et par les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale. Et comme le Hezbollah a des circuits financiers particuliers, ça veut dire que le parti chiite pourrait échapper à ces sanctions, ce qui donne l'impression que la France serait prête à accorder, si vous voulez, une sorte de régime de faveur au parti du Hezbollah. Bon, on est loin de tout ça. Mais c'est vrai quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, la visite de Lionel Jospin, il y a plus de 20 ans, dans les territoires palestiniens, qui avait qualifié le Hezbollah d'organisation terroriste. Il était Premier ministre à l'époque, il avait dû repartir sous les jets de pierre. Entre cette scène, il y a 20 ans, et la tentative inédite donc d'Emmanuel Macron de détacher le Hezbollah de la sphère d'influence iranienne, de le ramener dans le jeu de la reconstruction du Liban, c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de chemin. Mais apparemment, la démarche du président français aujourd'hui, elle est plutôt bien accueillie par le parti d'Hassan Nasrallah, qui se sent, si vous voulez, même flatté d'être ainsi reconnu par la France, invité à la résidence des Pins, c'est pas tous les jours, et donc ayant un tête-à-tête avec le chef de l'État, c'est une forme de reconnaissance internationale, a même dit Nasrallah. Alors, évidemment, il y a un pari, c'est un pari énorme que fait le président français, mais si Emmanuel Macron le gagne, ce sera évidemment tout bénéfice pour lui, sur le plan international, même si les Américains et les Britanniques lui feront sans doute les gros yeux, mais ce sera surtout tout bénéfice pour les Libanais, car encore une fois, le Liban ne peut avancer que si le Hezbollah débloque le système. Il y a une formule qui résume très bien la situation, je trouve. Elle définit le Hezbollah comme un État dans le non-État libanais.
Il est 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons passer à l'économie. Dimitri Pavlenko, merci d'avoir été complet sur cette phrase et sur cette situation.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Alors le plan des 100 milliards, 40 milliards sont donc donnés, et Dimitri va évidemment évoquer la possibilité de réussite de ce plan ou les complexités de ce plan. Il y a 40 milliards qui sont donnés par l'Europe, en gros 30 milliards, pas encore, enfin c'est le projet.
On l'espère.
30 milliards pour le verdissement, 35 milliards évidemment pour la compétitivité, et donc il va falloir savoir maintenant comment ça pourrait fonctionner. Au fond, qu'est-ce qui est, Dimitri, ce matin probable, positif, c'est-à-dire la réparation de la situation actuelle, et qu'est-ce qui est crédible dans la perspective de la reconstitution de la France de 2030 ?
Alors moi, je dirais que ce dont on peut se féliciter dans ce plan, c'est d'abord, c'est un peu provocateur de dire ça, mais vous allez comprendre, c'est centré sur l'entreprise, et c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui disent, dans ce plan, on a oublié les ménages. Non, les ménages, ils n'ont pas été oubliés. Je rappelle, il y a eu les prêts garantis pour l'État, ça a permis de sauver les boîtes, il y a eu le chômage partiel, ça a
sauvé... Et puis en plus, ils épargnent massivement, ils n'investissent pas.
Il y a eu le chômage partiel qui a permis de sauver les emplois. Donc quand même, et en fait, on le voit déjà dans les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE, ce sont les ménages qui ont pratiquement été épargnés, en fait. C'est 45 euros en moyenne de perdu par Français. Donc vous voyez, c'est quand même dérisoire comparé aux chèques faits par l'État et aussi aux pertes engrangées par les entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle, soit centrée sur l'entreprise. Alors maintenant, il y a quand même une spécificité française, c'est qu'on a fait des plans par le passé et qu'ils ont à
Sarkozy
peu près...
Sarkozy, Hollande deux fois.
Voilà, c'est ça. Et puis il y a le plan d'investissement d'avenir aussi, il y en a eu trois déjà. Ils ont à peu près tous moyennement réussi, voire raté. Et alors tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on va faire pour que ça réussisse cette fois. Parce que là, quand même, il ne faut pas se louper. Comment on réussit son plan, en réalité? Tout se joue, en fait, c'est souvent comme ça. Quelle que soit l'idée, l'important, c'est l'exécution, comment vous faites les choses. Et donc, les pièges à éviter, ça va être, d'abord, la lourdeur, la lenteur. Si vous prenez ce qui se passe en Allemagne en ce moment, ils ont décidé leur plan de relance il y a 3 mois. Tout le monde s'est dit, oh là là, les Allemands, qu'est-ce qu'ils sont forts? Ils vont très vite, et nous, on attendra septembre. Oui, mais le problème, c'est qu'en Allemagne, l'argent n'a toujours pas atteint les entreprises. Donc là, vous voyez, il y a un enjeu de rapidité. Il faut que l'argent, il arrive très très vite. Et je pense qu'on peut compter sur BPI France, en ce qui concerne les entreprises, pour que ce soit le cas. Nicolas Dufour, que son président, arrête pas de le dire. Il faut être très rapide. Il faut que ce soit simple aussi. Pas des démarches trop compliquées pour toucher cet argent. Et idem pour la sphère publique, parce que l'argent du plan, il va servir à des choses extrêmement concrètes. Par exemple, dans les Hauts-de-France, on veut moderniser les abattoirs. À Paris, on veut assainir les eaux de la Seine en vue des Jeux Olympiques. L'argent du plan va servir aussi à ce genre de choses. Crucial également, il faut pas que cet argent arrose le désert, si vous voulez, que ça aille dans des choses qui ne servent a priori à rien ou des projets mal ficelés. Et il y a une critique que je trouve très intéressante, il y a ce risque de débudgétisation, c'est-à-dire qu'en réalité, on vous dit l'argent, ça va financer des projets, ah ben non, bah finalement, on va le garder parce qu'on a un trou budgétaire, ça et là. C'est ce qui est arrivé au plan d'investissement pour l'avenir. Et puis, il y a peut-être une critique qu'on pourrait formuler, c'est que dans ce plan, malheureusement, ça part de l'État, ça va vers l'entreprise. C'est l'État qui définit les priorités, qui dit je veux de l'hydrogène, je veux moderniser les transports.
C'est le contraire des États-Unis où justement les sociétés proposent des projets et c'est l'État américain qui après décide de les financer.
Exactement. Vous avez une logique en France, comme on dit, top-down. J'aime pas trop, c'est de l'anglais, mais bon, c'est parlant. Top-down, ça vient du haut, ça descend vers le bas. Quand aux États-Unis, on fait du bottom-up, du fond vers le dessus. Peut-être que c'est là aussi un écueil. Et cette logique un peu centralisatrice, elle est renforcée par le fameux commissariat au plan. On va parler de François Bayrou, évidemment, qui est notre nouveau commissaire au plan, rattaché à Matignon.
Voilà donc pour les propos de Dimitri Pavlenko. Si vous vous intéressez à ça, vous trouverez évidemment dans tous les journaux ce matin, non seulement un entretien avec Jean Castex, le Premier ministre, mais avec des critiques notamment de Patrick Artus, l'économiste, qui considère qu'il s'agit plus d'un plan de relocalisation que d'un plan de relance. Il est 7h49. Voici l'histoire de François Bayrou racontée par le Alain de Caumaison, l'homme que vous aimez écouter dans le journal imprévisible. Il s'agit de Renault.